Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 41 déjà. Une Heure en Série, l'émission qui, chaque semaine, décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes plateformes et chaînes confondues. Ce soir, nous parlerons femme au singulier, au bord de la crise de nerfs et phallus de la discorde dans I Hate Suzy sur Brut X, remake scrupuleux et flic neurasthénique avec Luther sur TF1 et enfin robe de soirée et créateur d'Emurge dans Alston sur Netflix.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, je ne sais pas s'ils sont déjà vaccinés, mais ils sont bien piqués de nature quand même, il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Marjolaine Boutet de Phosphore, bonsoir Marjolaine. Isabelle Danel de Bandapart.fr, bonsoir Isabelle.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Et le plus piqué d'entre nous, c'est Benoît Lagan, bien sûr,
bonsoir
double dose, donc le 5-7 de Mathilde Munoz, le vendredi matin, et télématin triple dose, donc avec une heure en série.
C'est ça.
On ne se passe pas de vous.
Comme ça, je suis bien vacciné.
Mais on est accro, c'est normal.
Bonsoir
alors,
à tous.
On a un tout petit peu de courrier. On va commencer par celui de Marion. Alors, autant vous dire que ça va nous faire du mal, bien évidemment. Bonjour à toute l'équipe d'Une Heure en Série. Je continue votre tour du monde, puisque je vous écoute en podcast depuis Canberra, en Australie.
Ah.
Il y en a qui ont de la chance. Elle nous remercie pour Flight Attendant, une série qui sort des sentiers battus et dans lequel elle a été agréablement surprise par Kelly Cuoco. De son côté, elle nous recommande la série Catch 22. Il me semble pas qu'on... Elle nous dit, je ne crois pas que vous en ayez parlé dans l'émission. C'est vrai, puisque l'émission n'a que 2 ans et que la série est un petit peu plus âgée. Une mini-série, signale-t-elle, tirée du roman du même nom de Joseph Heller. La série dont l'action se situe durant la Deuxième Guerre mondiale, mettant en avant l'absurdité de la guerre. C'est noir, satirique à souhait et un petit bonheur à regarder. Nous sommes assez d'accord avec Marion. J'ai également le courrier de notre auditeur, fan de comics. Alors, je n'ai toujours pas de prénom, je n'ai qu'une adresse un peu indescriptible de son mail. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, cher ami, mais vous nous écrivez régulièrement. On avait eu la gentillesse de passer son message concernant la critique de Vendavision, étant fan de comics, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir l'adaptation du comic chef-d'œuvre Jupiter Legacy. Quelle magie de voir une de mes œuvres préférées portée à l'écran. Alors, évidemment, je suis un peu déçu. Ah oui, ça me comprend. Mais je vous ai trouvé trop hargneux. L'humour est là, la blague sur l'alerte sur Mars. Pendant le sexe, c'est de l'humour. On aimerait. On en est moins sûr que vous, hélas. Dans le comique, ils ne sont pas aussi lourds sur leur rapport père-fils. Ça veut dire que ça, c'est bien pesant. Et en tout cas, ils sont plus trash. Je vous enjoins de lire le comique. Il nous reste plus que ça, puisque la série a été annulée après une première et dernière saison par Netflix. Donc oui, évidemment, nous allons peut-être nous pencher sur le comics pour réhabiliter Jupiter's Legacy. En attendant, premier débat. I Hate Suzy, une série sitcom britannique de 8 épisodes disponible sur Brut X. Suzy est une actrice ayant connu autrefois son heure de gloire dans une série culte de science-fiction. Ce qui lui vaut depuis de nombreuses années, après l'interruption du show, d'être encore poursuivie par des hordes de fans engoncés dans une reproduction faite maison du costume qu'elle portait alors. Vous connaissez ça, Benoît, bien évidemment. Mais aujourd'hui, sa carrière est un peu sur le déclin. Elle vit désormais à la campagne avec son époux et leur fils, malentendant. Et elle tient le rôle d'une résistante luttant contre des nazis zombies dans une série qui semble n'intéresser personne. Moi, perso, j'adorerais la voir, mais bon. Mais la roue pourrait enfin tourner, car Disney lui propose de devenir une de ses princesses dans un tout nouveau programme. Et hélas, au même moment, son téléphone est piraté et des photos très intimes de Suzy se retrouvent sur Internet, des images explicites d'elle en plein ébat. Mais à la couleur du phallus avec lequel elle s'amuse, il est clair, en réalité il est foncé, qu'il ne s'agit pas de celui de son mari. Je sais, c'est très mauvais.
There were some photos posted online. It's not me. No.
I wish I was that bitch.
So obviously it's not your husband's.
I'm a terrible mother, terrible wife, slightly above average actress.
I will not play the victim.
It is your greatest role to date.
Oh, mommy is going to be your princess.
I Hate Suzy, une série tout en fiel auto-parodique interprétée et coécrite par la géniale Billie Piper, connue entre autres pour avoir été une des comparses du Docteur Who et avoir tenu le rôle principal de journal intime d'une call girl. Elle est accompagnée dans cette aventure par Lucy Prebble, une dramaturge maintes fois récompensée et scénariste d'ailleurs de journal intime d'une call girl. À ses côtés, on retrouve Daniel Hicks dans le rôle du mari trompé, acteur vu récemment dans The English Game et Sex Education, ainsi que Leila Farzad qui interprète fait son agente. Il y a deux saisons à ce jour, on va se concentrer sur la première et laisser la parole à Benoît.
Oui, alors, est-ce que je m'attendais à quelque chose de cette série? Le titre à H.Z. est très intriguant parce qu'on se dit une série qui dit qu'on va détester, enfin qu'on déteste le personnage principal. Déjà, ça commence bien, a priori. J'aurais aimé, moi, l'adorer, Suzy. Malheureusement, ce n'est pas vraiment passé. Alors, j'ai essayé, pendant tous les épisodes, de comprendre pourquoi ça ne passait pas, en fait. Cette Suzy Pickles, Suzanne Cornichon, c'est, voilà, si on peut traduire comme ça. Est-ce que...
Laisse aller direct.
Non, mais à tout moment, quand on regarde la série, on sent qu'il y a une volonté de nous faire rire. Sauf que moi, déjà, je ne ris jamais. Je vois ce personnage qui, comme vous l'avez décrit dans le résumé, effectivement, se retrouve dans une situation compliquée. Donc, on se dit qu'on va aimer la voir dégringoler, essayer de se raccrocher comme elle peut. Le parti pris de la série, qui est plutôt un bon parti pris, fait de nous raconter de son point de vue, tout le temps. Donc, on est dans son bazar intérieur, en fait, au fil des épisodes.
Avec un chapitrage un peu particulier. Voilà. D'abord le déni, ensuite le chaos.
Un petit peu comme le deuil, en fait. Voilà. Et donc, tout ça, c'est plutôt bien. Sauf que ça s'étire longuement. Si ça s'étire, soit il y a de l'humour et on prend l'humour qui est présent. Il y a dans le deuxième épisode, par exemple, cette scène où on la voit avec un vieux comédien lubrique dans la fameuse convention sci-fi où elle va. Et je trouve que ça traîne en longueur. Il se passe rien. Ça ne dit rien du personnage, et ça devient agaçant. Alors, les épisodes durent 30 minutes, moi j'ai l'impression qu'ils durent 45, et plus j'avance, il y a des moments où je me sens à la limite touché par le personnage, et hop, il y a encore une scène qui s'étire, et au final, je finis par abandonner, alors que j'aurais aimé être au plus près de Suzy, et voilà, et ça n'a jamais pris.
Isabelle.
Bah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une série très très mélangée et effectivement, on peut prendre ça pour une petite série rigolote. Et moi, il y a des choses qui me font beaucoup rire. Mais en même temps, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui sait pas où se jeter, qui sait pas quoi faire d'elle-même, qui aime tout et rien et dont le plus grave problème est sans doute de n'avoir jamais rien décidé. Donc, c'est aussi ce personnage ballotté, avec une volonté assez forte, mais et qui est féministe, qui essaye d'être tout à la fois une mère, une épouse, une amante, une actrice, etc. Et qui est un peu dépassée par tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. En termes de mise en scène, c'est une sorte de maelstrom visuel, avec une caméra mouvante, des très gros plans, parfois, une capacité à accompagner en octant... mais sans perdre le fil, le chaos permanent de la vie de Suzy. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose... C'est pas forcément tout ce que j'aime, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une immersion dans cette série qui fait qu'on est avec elle, qu'on comprend cette espèce de désarroi total d'une célébrité qui lui est tombée dessus à 15 ans et dont elle a pas su exactement quoi faire parce que c'était trop tôt, sa meilleure amie est devenue son agent. Enfin, elles étaient pas vraiment forcément taillées pour l'aventure. Donc c'est tout ce questionnement-là de on peut être tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on y arrive vraiment et tout ça. Donc ça, c'est un côté série féministe, mais qui se cache pas derrière son petit doigt et qui raconte pas non plus la vie en rose parce que c'est pas rose. Et puis, bah, je suis étonnée, Benoît, parce que I Hate Suzy, il y a un côté... évidemment, il y avait la sitcom I Love Lucy, oui. Et c'est vraiment la version 2.0, c'est vraiment la femme du 21e siècle, avec tous ses mélanges, etc. Et moi, je trouve ça assez amusant et en même temps assez troublant, parce qu'il y a un vrai désarroi dans ce personnage, quoi.
Mais je trouve qu'on ne va pas non plus nécessairement à l'humour. Il y a une séquence de séance photo chez elle où on envahit sa maison, oui. On met les meubles dehors, qui résume très très bien ce que vous avez dit. Elle est totalement en désarroi, elle n'a aucune autorité sur ces gens qui en ont plus qu'elle. Et je trouve que ça dit aussi quelque chose de la violence du star system, effectivement, surtout quand on est sur le déclin. Marjolaine, vous n'êtes pas sur le déclin, bien évidemment, mais avez-vous partagé les émois de Suzy?
Mais non, justement, et effectivement, cette première scène là où son appartement est envahi par des gens qui viennent la prendre en photo dans des situations totalement absurde alors qu'elle est en pleine crise conjugale, je trouve que ça résume bien ce qu'est la série. En fait, moi, ces séries qui sont fondées sur la gêne, où on met les personnages constamment dans une situation d'humiliation, moi, ça me parle pas du tout, en fait. Je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça touchant. Et à aucun moment, je n'ai éprouvé une quelconque sympathie pour cette starlette narcissique et vulgaire, pour son mari passif-agressif. Et même l'enfant sourd et l'agent meilleur ami ont fini par m'agacer parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Benoît. c'est trop long, ça manque de rythme pour que ce soit véritablement percutant. Donc du coup, l'histoire ne m'a pas touchée, je suis d'accord avec tout ce que dit Isabelle, mais moi j'ai trouvé que justement la mise en scène, la narration, les problèmes de rythme et de longueur ont fait que je suis restée totalement dehors, malgré tout le respect que j'ai pour Billy Piper et les références à sa propre carrière. Ah oui. Moi, c'est la scène au Comic-Con qui m'a le plus amusée avant la nuit de débauche interminable avec l'acteur sur le retour.
Billie Piper est géniale quand même, elle ose tout, elle est sans filtre, sans phare, elle est impressionnante, et je trouve que c'est vraiment une grande actrice, quoi.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que j'aurais vraiment aimé, parce que je trouve que les comédiens sont très forts, qu'il y a des vrais partis pris de mise en scène, mais c'est exactement ce que dit Marjolaine, c'est-à-dire que ces partis pris, ça passe ou ça casse, voilà, ça passe avec toi, tant mieux, ça casse avec moi.
Eh bien, ce sera 2-2 en bilan de ce premier débat, parce que je suis complètement d'accord avec Isabelle Danel, absolument. Et je trouve qu'au contraire, on s'attendait à un truc un peu satirique, un peu lourd, un peu sur une seule tonalité humoristique. Je trouve qu'il y a de la profondeur. Effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu, même angoissant dans la manière dont Billy Piper interprète ce personnage. Et je trouve que c'est vraiment, en ce qui me concerne, une réussite. Mais je suis censé ne pas donner mon avis. Let You Speak, par Mead, également connu sous le nom de Quentin Le Poutre. Ouais, je sais, ça ne s'invente pas. Cinquième extrait à ce jour comme de Bum Loser. Pardon ?
Comme le personnage de Hard.
Oui, absolument, c'était La Poutre.
La Poutre,
presque. Album sorti, vous avez des références, Marjolaine me l'a déjà dit pendant l'émission, pendant la chanson. Bon, on va revenir à Bum Loser, qui est le cinquième album de Mead, sorti le 30 avril dernier, un titre qui hybride et conjugue une pop entraînante très estivale et une électro-addictive pour parachever un humour traversé par l'absurde et la parodie. La preuve avec le clip joyeusement décalé, qui n'est pas sans sans faire penser à Quentin Dupieux, la coupe mulet en trait d'union. Car oui, parmi les dangers de l'été, il y a le retour de la coupe mulet.
France Inter. Une heure en série.
Conseil littéraire, La chair du tigre de Zoltan Meyer aux éditions Carrière en écho à Hate Susie. C'est le premier roman de ce photographe, monteur, scénariste et réalisateur qui avait signé en 2015 un excellent premier long métrage de fiction Voyage en Chine avec Yolande Moreau. Et ses débuts en littérature sont aussi prometteurs. Luxi, Luxi, sans doute, Ming n'a que 12 ans, elle vient d'arriver de Chine avec ses deux parents. Le père est souvent absent et la mère peine à trouver ses marques, se reposant sur la saisissante maturité de la petite fille pour se laisser aller à sa nature mélancolique. Luxi est une élève douée, amoureuse de cette langue française qu'elle roule dans sa bouche pour mieux en maîtriser les plus belles nuances. Elle est aussi une enfant hypersensible, dotée d'une rare lucidité, ce qui lui permet de comprendre et d'analyser le monde qui l'entoure, mais sans toutefois pouvoir s'en protéger. C'est le cas avec Jade, une de ses camarades de classe, qui a fait de Luxi son souffre-douleur. Inlassablement, elle l'humilie, la violente, l'arabesse. Et plus elle s'acharne, moins Luxi la condamne, persuadée que sa mission est de sauver son bourreau, de l'aimer malgré elle, d'amener son harceleuse toxique vers sa rédemption. Roman d'une existence percutée de plein fouet par la violence d'une enfance qui découvre la réalité toxique du monde, mais refuse de jouer le jeu de la surenchère de la haine. Un livre où l'auteur se glisse, du moins dans la première partie, dans la peau de son héroïne pour mieux nous faire partager le quotidien de cette fillette brutalisée et l'univers intime et apaisant qui lui sert de rempart. C'est juste bouleversant. Je vous rappelle le titre, Le chair du tigre de Zoltan Meyer, et c'est paru aux éditions Carrière, Anne Carrière. Deuxième débat. Luther, série française en 6 épisodes, actuellement diffusée sur TF1 le jeudi soir et d'ores et déjà disponible en intégrale sur la plateforme Salto, un remake de la série éponyme britannique de Neil Cross. La série originale est toujours disponible sur Netflix. Série qui avait révélé l'excellente Ruth Wilson et ça crée définitivement Idris Elba qui en interprétait le rôle titre. Celui d'un flic un rien abattu, les épaules tombantes et un vieux manteau noir informe sur le dos qui, au début de cette série, pourchasse un pédophile et le laisse tomber dans la cage d'un ascenseur, ce qui lui vaut de faire l'objet d'une enquête de l'IGPN, la police des polices. En attendant les résultats de celle-ci, il doit s'occuper d'un tueur de flics et surtout tenter de coincer une jeune scientifique brillante, fortement soupçonnée d'avoir aussi ses parents et son chien. Oui, le chien a son importance. Et pour couronner le tout, Luther est en train de perdre son épouse, qui, lassée du comportement instable de son mari, tente de refaire sa vie avec un autre homme. Bref, pour celles et ceux qui ont vu la série britannique, c'est ce qu'on pourrait appeler un pur copier-coller.
J'ai jamais rêvé de te demander si t'étais du bon côté. On franchit tous la ligne un jour ou l'autre, Théo. Plus ou moins. Et ça fait pas de nous des monstres pour autant.
Tu es rétabli dans tes fonctions. Et ça tombe bien parce que là, on en a foutrement besoin. Y a pas mal de monde qui t'attend au tournant et qui rêve de te voir te ramasser. Terminé les initiatives personnelles. Tu marches dans les clous et tu fais tout dans les règles. Je me suis bien fait comprendre, capitaine.
Joli discours, commandant.
Qu'est-ce que vous cherchez ?
À couvert !
Ça ressemble à un guet-apens monté par un pro.
On a un tueur à trouver.
Si vous foirez, on plonge tous avec vous. Je suis vraiment très content d'être de retour.
Cette version parisienne de Luther est signée Christian Roux et Laurent Herbier. Pour mémoire, ce dernier avait été scénariste, entre autres, des films Les Herbes Folles et Vous n'avez encore rien vu d'Alain René, ainsi que de la série Malaterra dans les rôles principaux. Christopher Bayemi, que l'on a vu récemment dans HPI, Chloé Jouanet, que l'on avait vu dans Derby Girl, est plutôt apprécié. Et enfin, Nadia Farès et Thierry Frémaux. Isabelle Luther.
Alors,
oh bah, je crois que tout est dit, là, voilà. L'hésitation, le petit temps de silence, bon, ben, bah, on va pas aller plus loin.
Bah, si, quand même. Bon, déjà, à mon humble avis, la version d'origine anglaise, 5 saisons tout de même, est regardable, mais pas recommandable. Et là.
Pardon?
Bah, oui. Voilà, je maintiens. Et donc là, bah, c'est très ambitieux et courageux de la part de TF1 d'adapter une série aussi noire, aussi violente, pas très grand public, etc. Mais cette version française, elle-même regardable, est tout de même très fade, tout en gardant des éclats de violence à la limite du supportable. Vous avez parlé de copier-coller tout à l'heure. Bon, ça fait un peu son marché dans les deux premières saisons, cette saison 1 de la...
Oui, ça resserre un tout petit peu les taux.
Ça resserre un peu les taux. Il y a quatre affaires criminelles parmi le flot d'hémoglobine. Le problème, c'est que c'est pas écrit du tout, mais moi, je trouve que la première série n'était pas écrite non plus en termes de personnage. C'est-à-dire que la façon de questionner la dualité de Théo, il s'appelait John, il s'appelle Théo Luther ici, est assez basique. Globalement, c'est quoi? C'est un policier prêt à tomber. Le générique, d'ailleurs, nous le montre en haut d'immeubles, au bord de corniches diverses. Donc, toute la question de la série, c'est savoir si, oui ou non, il y aura chute. Et le problème de ça, c'est que en fait, on est dans une espèce de dualité avec ce personnage d'Alice, qui est donc une tueuse psychopathe, avec qui il va faire une espèce de duo bizarroïde. C'est son...
Elle fait une fixation sur Luther.
Oui, mais lui aussi l'accepte. Il finit par l'accepter dans une espèce de duo étrange. C'est le Jiminy et le Criquet inversé. C'est la méchanceté faite femme. Et bon, voilà. Donc, du coup, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Il y a une chose quand même que je sauve, c'est les décors. C'est-à-dire que je trouve quand même qu'il y a une tentative de montrer dans une série française des décors qu'on voit pas d'habitude. La brigade criminelle, c'est pas les bureaux qu'on voit d'habitude. Les lieux sont magnifiques. C'est très froid, très angoissant comme ça. Et donc, voilà, il y a un côté Gotham City pour ce Batman de pacotille qui fonctionne un petit peu et qui n'est pas désagréable visuellement.
Benoît Lagan, à propos de Luther.
Oui, alors, on ne va pas refaire le débat sur pourquoi une adaptation, etc. Enfin, si l'adaptation parle de nous, en l'occurrence, si ce Luther français parlait de la France, moi, je veux bien le voir. Ça ne se vendra pas à l'étranger, on préférera toujours le Luther anglais plutôt que le Luther français pour l'étranger, mais au moins que ça parle de nous. Et pour moi, le cas d'école, c'est le début de la série qui nous parle de la violence faite aux forces de l'ordre et de comment la police réagit par rapport à ça. Quand on voit le débat que nous avons en ce moment sur la violence envers les forces de l'ordre et les violences policières, qu'est-ce que cette série nous raconte? Rien. Voilà. Et c'est pour ça, moi, mon gros problème. Et ce Luther, moi, je trouve que Christopher Bayemi s'en sort plutôt pas mal, bien évidemment.
Ah, les acteurs, c'est plutôt
Chloé Jouannet est glaçante. Moi, je la trouve admirable dans le rôle. Vraiment, le décor, je suis tout à fait d'accord. Isabelle, que ce décor, qui moi m'a fait penser à une autre série française qui était Un flic avec Alex Descas signé Hugues Pagan il y a quelques années sur France 2 et qui était tournée à Ivry-sur-Seine dans le même type de décor, et il y avait quelque chose. Et bien dans Un flic qui n'était pas feuilletonnant, ça disait beaucoup plus de choses que c'était quoi la place d'un flic noir en France que dans cette série qui aurait pu être vraiment réussie mais qui voilà, enfile les clichés et est raté quoi.
En termes de décor, il y a le final du quatrième épisode qui se passe à la BNF, oui. Est assez stupéfiant, oui. Parce que vous disiez tous les deux d'utilisation de ce côté grisâtre, comme ça, très froid, très métallique, du décor. Marjolaine.
Oui, alors moi, c'est les dialogues que j'ai trouvé tellement ridicules qu'au départ, j'ai cru qu'ils avaient été écrits par Google Trad. Donc, je suis allée lire le scénario de la série originale qui est téléchargeable sur le site de la BBC. Merci la BBC. Et en fait, non. Il y a bien des gens qui ont voulu faire dire à des acteurs l'absence de preuve ne signifie pas la preuve de l'absence. Et qui sont
vous
dit
croiser, je ramasse les copies.
Et qui sont dit sur le ton et la bande-annonce que vous avez entendue un peu plus tôt, qui sont dit sur un ton monocorde, le mal tourne à plein régime en ce moment.
Oui, ça j'adore. Ça,
gentil, j'imagine qu'il faut l'être pour élever un monstre, etc. etc.
On dirait du Horatio Caine dans Les Experts Miami.
Oui, exactement. Et si c'était dit avec un soupçon d'ironie, ou avec le ton, à la limite, pourquoi pas? Mais le problème, c'est ce ton monocorde, des échanges du tac au tac, mais qui, il n'y a pas d'alchimie. Et moi, je trouve qu'il y a un gros problème de direction d'acteurs. Effectivement, les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais j'ai l'impression, moi, que le réalisateur a passé beaucoup plus de temps à travailler ses effets de caméra, avec ses plans sur le métro, les tags parisiens et tous ces décors dont vous avez beaucoup parlé, parce qu'effectivement, c'est ça qu'on voit. Et il n'a pas passé assez de temps à répéter avec ses acteurs. Et du coup, ben, ça m'a rappelé Marseille, quoi.
Oh là, à ce point!
À ce point.
Non, c'est pas ce point-là.
La sentence est irrévocable. Voilà. Lourde de peine pour Luther sur TF1. On en est au quatrième épisode sur la chaîne. Et encore une fois, c'est disponible en intégrale sur la plateforme Salto.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants, et les clairières d'opale dorénavant. Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser. Sanglots de reptiles s'adressent aux sans-dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies. C'est génial, on le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique. Ah, tu fais moi le malin, sanglot de reptile, maintenant que t'es plus derrière ton écran. T'as vraiment pas l'air si grand, essaye pas de t'enfuir avec tes talonnettes à 4000 poules qui servent plus à rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos, ou jette des pièces comme sur l'écran de ton vivarium. Ah, tu fais moi le mariole, tout ça pourquoi? Parce qu'on avait pas eu des putains de lunettes spéciales.
Total par Feu Chatterton, un titre extrait de leur troisième album intitulé Palais d'Argile et qui vient de sortir, un album né d'un spectacle avorté, avorté en raison de la pandémie bien évidemment, une rencontre entre théâtre et comédie musicale qui aurait dû être créée au Bouffe du Nord, entre mélodies ciselées et textes impliqués, le quintet masculin aux cheveux en bataille, ils ont beaucoup de cheveux, hein, réinvente encore une fois son univers musical. Vivement la scène.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité est racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et aujourd'hui, un anniversaire, celui d'une série qui, il y a 20 ans déjà, portait un regard sur une famille américaine hors du commun dans trois petits points. Six Feet Under.
Effectivement, la série des deux Alan, Alan Ball et Alan Poole, Six Feet Under, fête cette semaine ses 20 printemps. Oui, déjà 20 ans, c'était le 3 juin 2001 que la chaîne HBO, après avoir lancé la série familiale dysfonctionnelle du New Jersey Les Sopranos, enfonçait le clou avec les Fishers, pauvres pêcheurs de Six Feet Under. Une série qui allait s'amuser à renverser les codes de la série familiale classique américaine et qui restera dans les annales aussi pour son générique. En quelques notes à peine, vous allez l'entendre, vous allez vous retrouver 20 ans en arrière. Thank you. les Fisher sont à la tête non pas d'un empire financier comme chez les Ewing dans Dallas, ou d'une grande propriété terrienne comme les Barclay dans la Grande Vallée, mais d'une entreprise de pompes funèbres. En revanche, comme les deux séries précédemment évoquées, l'absence du père, la place des frères que tout oppose, la jeune sœur un peu sur le côté, ou la mère qui doit apprendre à s'imposer face à ses enfants, les créateurs de Six Feet Under s'amusent à reprendre donc les codes et les situations déjà vues dans le drama familial des networks américains, comme la traditionnelle mort du père, et en glissant même de vraies fausses pubs entre chaque acte de l'épisode pilote. Je rappelle, HBO est une chaîne sans publicité. En faisant ces choix, en fait, les auteurs proposent un pacte intelligent avec le spectateur, qui comprend très vite que l'histoire des membres de la famille Fisher va tendre un miroir sur la représentation de la famille à la télévision, et un second plus intime sur la vie de chacun. Tout le monde peut se reconnaître en fait chez les Fisher, parce que tout le monde sera un jour confronté à la mort d'un parent ou d'un proche. La mort d'un personnage dans une série, ce n'est jamais anodin, qui plus est quand il advient, comme ici dès le premier épisode. L'événement en question, c'est la mort du père Nathaniel dans un accident de voiture dans son corbillard, crée au-delà de la dimension tragicomique un premier conflit qui permet de lancer le récit. Alors à partir de là, chaque membre de la famille un peu endormi dans sa vie une vie sans rebondissement, va être poussé à se questionner sur son sort et à reprendre goût à la vie. Il n'y a pas plus universel. Mais ce que cette série apporte de plus par rapport à bien d'autres productions, c'est que chaque personnage renvoie une image, effet miroir démultiplié à tous et tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Ruth, l'épouse plus ou moins délaissée quand on est à la gestion de sa cuisine, David qui cache son homosexualité, Nate qui refuse toute vie rangée, ou encore Claire, l'adolescente qui, c'est un pléonasme, est mal dans sa peau, au point, et là ça n'est pas forcément un pléonasme, de se faire du mal. Senior, adulte, adolescent, chacun confronté à la mort va devoir repenser sa place dans la famille et au passage dans une société qui se rêve toujours plus aseptisée. D'ailleurs, toute la série au fond sera un peu à l'image de cette scène que je voulais vous faire écouter, qui est issue du premier épisode. La série au fond sera un peu à l'image de cette scène, vous allez voir, on est au moment de l'enterrement du père de famille quand les fils Nate et David s'opposent sur la mise en scène d'obsèques bien trop lisse. Six Feet Under, dans une écriture sobre et une mise en scène jamais glauque, réussit le tour de force de changer l'image de la série familiale américaine, elle aussi à l'époque, souvent trop lisse.
Je refuse d'aseptiser ça encore plus. Mais c'est le rituel.
Ah ouais ? Eh ben il est nul ton rituel.
Hein ? À quoi ça sert ce cercueil hermétique, ce gazon artificiel autour de la tombe ? En bonté divine, ça ressemble à de la chirurgie, c'est propre, c'est aseptisé. C'est du business. C'était notre père.
Je te prie de te taire.
Tu peux lui injecter tous les produits que tu veux, tu peux le couvrir de fond de teint, l'installer confortablement dans une chambre funéraire de luxe. Il ne reste pas moins, David, que le seul père que nous n'aurons jamais, toi et moi, est mort.
Alors Six Feet Under reprend sur OCS à l'occasion de ses 20 ans, une série à voir ou à revoir aussi comme un des premiers documents fictifs sur le craquellement, les fissures, les fêlures et les névroses d'une famille WASP américaine progressiste, une thématique qui sera reprise depuis et retravaillée dans bien d'autres séries, ou comment, en sortant du carcan imposé de l'image de la traditionnelle sainte famille télévisuelle, Six Feet Under aura démontré aussi à bon nombre de téléspectateurs qu'en attendant de mourir, il fallait vivre en s'acceptant soi-même, avec ou sans ses paradoxes, vivre dans un monde moins cadré, accepter aussi le déséquilibre, les pieds sur terre.
Six Feet Under, une série qui fête ses 20 ans et que nous avions classé 6e dans notre top 20 des meilleures séries de tous les temps. Et je crois que nous avions bien fait.
Oui.
Merci beaucoup, cher Benoît. Je reprends l'effet miroir, une chronique que l'on pourrait écouter en podcast. Et tout à l'heure, dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. Et là, vous êtes bien dans Une Heure en Série avec Marjolaine Boutet, Isabelle Danel et Benoît Lagan. Et nous sommes évidemment sur France Inter. Troisième débat, Alston, série en 5 épisodes, disponible sur Netflix. La nouvelle série co-scénarisée et co-produite par le très prolixe Ryan Murphy. Entre autres, récemment, j'ai l'impression qu'il y en a une tous les mois quand même. Ratchet, les franchises 911 ou encore American Horror Story. Il s'agit cette fois d'un biopic, d'une série courte, mini-série reconstituant la gloire et la déchéance de Alston, grand nom de la haute couture américaine et du prêt-à-porter industriel des années 70 et 80. Un homme un peu oublié aujourd'hui qui régna sur le monde de la mode et les nuits orgiaques du Club 51, crayon à la main et né dans la poudre. Poudre, bien poudré quand même, hein. Un ami très proche de Liza Minnelli, sûr de son talent, mais qui ne verra pas venir le temps de la chute et de l'oubli avant de décéder du sida en 1990.
Je vais changer la face de la mode américaine. Ce qu'il faut, c'est déterminer ta signature. Le truc qui permettra, quand on voit une femme superbe, de dire, ça c'est du Alston.
Tu Toute ma vie, je me suis senti exclu. Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'en avais rien à foutre.
Dès qu'on se considère comme un génie, on cesse de progresser.
Alston pour une envie. Alston pour une folie.
Je te connais, Alston. S'il y a bien une chose qui te coûte, c'est de dire stop.
Il t'arrive de ressentir que tout ce que tu as peut disparaître en un instant.
Alors, j'ai éhontément rebaptisé le Studio 54 Club 51, qui m'a valu un regard extrêmement noir et courroucé de notre vigilante Isabelle Danel.
Bah oui,
rien de pas,
ce genre-là,
c'est tranchant. C'est toujours la victime, elle a jamais assez de temps de parole et en plus, il dit des conneries, ça n'est plus possible. Alors, une série interprétée par Evan McGregor, Krista Rodriguez, qui est assez stupéfiante dans le rôle de Liza Minnelli, ouais, et Gianfranco Rodriguez dans le la peau, pardon, de l'amant très toxique de Alston. Alors, côté de la presse, c'est pas un déchaînement quand même d'enthousiasme. Les Arocs déplorent un classicisme cousu de fil blanc, sans fulgurance ni en phase, et une mise en scène un peu terne. Pour Télérama, la série est mineure mais attendrissante. Marjolaine, vous qui avez un cœur.
Oui, alors moi, c'est
non,
un
vous n'en
biopic.
Avez pas. Je sais pas pourquoi vous répondez
vraiment,
oui,
en fait.
Tout le monde le sait, vous n'en avez pas.
C'est effectivement un biopic et ça aurait très bien tenu dans un film de 2 heures et des brouettes. Et là, malheureusement, Ryan Murphy allonge la sauce et on perd largement le côté mode. Or, j'y reviendrai, c'est vraiment une période très intéressante de l'histoire de la mode, pour se concentrer sur les histoires de drogue et de zizi du couturier. Ah, il y a eu phallus au début d'émission, je peux dire zizi.
Mais bien sûr.
C'est dommage.
Vous dites pas bite, c'est la seule chose que je vous demande. Évitez. Voilà, on est quand même sur France Inter.
C'est dommage donc de se concentrer là-dessus, à mon avis, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cette période charnière donc de l'histoire de la mode, où les grands couturiers comme Yves Saint Laurent se mettent à faire du prêt-à-porter. Et d'ailleurs, il y a eu 2 films biopiques sur Saint Laurent ces dernières années par Jalil Lespert et Bertrand Bonello. Et évidemment, on y pense beaucoup.
Il n'y en avait qu'un de bien quand même.
Il n'y en avait qu'un de bien, évidemment. Ici, c'est Ewan McGregor qui est formidable. Mais pour faire tenir une série, il aurait fallu que son entourage soit davantage développé avec des storylines propres et les personnalités d'Elsa Peretti, formidable Rebecca Diane, et Joe Hula, joué par David Pitiu, le méritait. Elsa Peretti, c'est une des plus grandes conceptrices de bijoux de la maison Tiffany et qui a vraiment révolutionné tout le design en fait des années 70. Et Joe Hula, c'est un illustrateur avec un talent fou qui a fait énormément d'affiches aussi de ces années 70. Et si voilà, il avait fait quelque chose sur ce club, ce Studio 54 qui rassemblait vraiment des personnalités extrêmement intéressantes au-delà de celle d'Alston, on aurait pu avoir une série qui se tient et qui aurait pu durer bien plus que ça.
Je trouve qu'il y avait un vrai sujet quand même sur l'industrialisation de la mode, qu'il refuse au début, puis à laquelle il finit par céder. Et là, il y avait vraiment une coulisse, il y avait un hors-champ, j'allais dire, à travailler.
Mais il aurait fallu les voir,
c'est très
robes,
répétitif. Une fois qu'on l'a vu dessiner 3 trucs et se repoudrer le nez régulièrement, avec son amant derrière, en ange tentateur, comme ça, je trouve que ça, même lui n'est pas assez développé, alors qu'on sait qu'il est mexicain, il y avait quand même aussi quelque chose de l'ascension sociale par un biais particulier. Et malheureusement, c'est tout ça en filigrane. Alors moi, j'avais complètement oublié Alston, je crois même pas d'ailleurs avoir jamais connu ou avoir entendu ce nom-là. Vous, Isabelle, vous vous en souvenez parce que c'est signalé à la fin.
À cause des costumes qu'il a fait pour
dans
certains...
le dernier épisode, qui est un peu émouvant, enfin, effectivement.
Oui, pour Martha Graham, il a travaillé pour elle et il a fait des choses assez étonnantes, des espèces de chrysalides comme ça, dans lesquelles les danseurs s'ébattaient et c'était très très beau. Donc voilà, moi j'avoue aussi mon inculture, contrairement à Marjolaine, je ne connaissais pas Alston. Donc du coup, moi ça m'a un peu intéressée parce qu'on découvre le Bibi Jackie, la Suédine, l'Ascension, la chute, la garde rapprochée, les amis chers, les orchidées, la dope, pourquoi pas. Après, je suis d'accord, c'est assez répétitif. Néanmoins, moi, je vous trouve tout d'un coup sévère, c'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de pas être très très gentil pour la série. Je trouve quand même que bon, ça brasse énormément et que du coup, il y a quand même un certain nombre de choses qui passent, et notamment sur la mise en bourse des grands couturiers qui sont. Il y a des séquences qui sont une leçon sur tout ce qu'il faudrait arrêter en matière de financement de la haute couture, mais aussi de l'art et également de la presse, parce que c'est ici, comme souvent, un géant du meuble qui n'y connaît que dalle, qui rachète la marque. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant de glisser ça, parce que c'est vraiment l'époque qui veut ça aussi, mais de glisser ça dans une série grand public et qui a comme ça, voilà, un peu de lustre, un peu de face, etc.
Ça aurait quand même mérité d'être un peu plus étoffé, dramaturgiquement écrit, non ?
Ah, moi, je trouve, oui, bien sûr, mais j'y ai trouvé mon compte sur des choses que ça me racontait de l'époque et que je ne connaissais pas. Le problème, c'est effectivement la dope et les zizi, comme disait Marjolaine, et que ça, il y en a un peu beaucoup, et qu'au bout d'un moment... alors que je trouve que la série, par exemple, commence très très bien. Il y a trois scènes. Première scène, c'est son enfance. On se dit, ouyaïaï, on va avoir droit à son enfance tout le long. Et je sais gré au réalisateur et à Murphy de pas nous avoir noyé sous les flashbacks, parce que franchement, il y a quelques flashs, mais il y en a pas tant que ça. Donc il y a une première scène d'un petit garçon dans un poulailler qui ramasse des plumes et on se dit, oulala. Et c'est tout de suite, voilà, la scène est faite, ok. Et ensuite, on passe 22 ans plus tard avec un gros mot que je ne dirai pas à l'antenne sur Jackie Kennedy. God bless Jackie Kennedy. Et quelques années plus tard, en 68, l'inverse, un gros mot sur Jackie Kennedy. Et là, je me suis dit, formidable, ça va être génial.
Il portait les chapeaux d'Alston qui étaient ses premières créations.
Voilà. Et après ça, ça se déballonne complètement. Alors, le premier épisode et le cinquième sont très bien, donc je pense que Ryan Murphy a dû y mettre beaucoup plus son nez qu'ailleurs. Et le reste est très étiré, très étendu et pas très intéressant. Néanmoins, oui, l'interprétation de Krista Rodriguez est très, très intéressante. Et quand elle arrive et qu'elle chante Liza with a Z, eh ben, c'est un très, très grand moment. Moi, je me suis repassé la séquence 5-6 fois parce que vraiment, c'est du bonheur. La bataille de Versailles, il y a quand même des choses qui s'y passent et c'est assez intéressant. Donc, si on connaît pas, je pense qu'il y a quand même à glaner et il y a quand même un vrai plaisir et il y a des acteurs, il y a des vrais, même si on voit très peu et tu avais raison les autres, il y a des vraies personnifications de gens et ça fonctionne quoi. Donc voilà, je pensais que j'allais pas la défendre et finalement je me
retrouve
à la défendre.
Mais finalement aussi. Alors la grande question, c'est trop courte ou trop longue ? Alors je ne parle pas de l'entrejambe de Alston bien sûr, mais je parle de la série et de son développement sériel.
Oui,
Benoît.
Bah, oui, mais justement moi je suis assez
que la taille ça ne compte pas.
Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Marjolaine, c'est-à-dire qu'il y avait tout dans cet Alston pour faire du grand Murphy. Y a ça, c'est du Alston. Est-ce que ça, c'est du Murphy, cette série ? C'est du Murphy qu'à moitié. Effectivement, trop court, du coup, ces cinq épisodes, parce que centré sur lui et que les personnages sont annexes, l'époque est là, mais annexe aussi. Alors, c'est vrai, moi, je suis d'accord totalement avec ce que dit Isabelle. Moi, j'ai appris des trucs aussi, et je trouve ça plutôt bien, hein, ces cinq épisodes.
Voilà. On voudrait que ce soit étoffé, développé.
Mais ça manque de quelque chose. Mais en revanche, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est justement cette dimension industrielle que vous disiez, Xavier, et c'est quand même assez étonnant que Ryan Murphy, qui connaît quand même l'industrie hollywoodienne comme ses doigts, enfin, il connaît par cœur, il sait très bien, il travaillait chez Netflix, il produit du Murphy en cascade,
moi,
en permanence.
Moi, j'ai l'impression qu'il parlait de lui, en fait.
Mais je pense qu'il parle au fond un petit peu de lui.
Il aurait peut-être fallu qu'il ose aussi un petit peu plus justement parler de lui.
Voilà, mais le problème, ils se font piéger aussi, ces auteurs-là, notamment qui sont habitués à des séries sur beaucoup de networks, où en fait, on fait passer souvent beaucoup plus d'infos et de messages et d'histoires, parce qu'on est contraint à ne pas montrer certaines choses, parce qu'on ne peut pas montrer certaines choses, et il est sur Netflix. Donc ils peuvent se permettre de montrer des zizi et de la dope en boucle. Et du coup, vu qu'ils savent qu'ils n'ont que 5 épisodes, parce que finalement, ils n'auront pas les moyens de Netflix pour faire la grande œuvre qu'ils aimeraient faire, du coup, ils font ça. Et je pense que le fait que ça ressemble à ça, c'est un vrai commentaire de Ryan Murphy qui dit un autre gros mot peut-être à Netflix en disant « Voilà ce que je vous pompe. Si vous vouliez mieux, donnez-moi les moyens. »
Voilà, et bien c'était donc Alston de Ryan Murphy avec Evan McGregor. Evan McGregor qui est quand même le gros crush de Marie-Annie Crimbaud, notre réalisatrice. Donc hommage Evan. Et la série est disponible sur Netflix et 10 secondes.
Oui, et qu'on est content de retrouver dans une série parce qu'il a quand même démarré dans une série. Evan McGregor, c'est dans Du rouge à lèvres sur ton col, qui était une très chouette série.
Ça nous rajeunit pas. Merci à tous.
Time to tell.
Rapture par Blondie, une chanson sortie en 1980 dans le cinquième album de ce groupe américain aux forts accents british. Un titre au croisement du disco, de la funk et du hip-hop porté par la voix inoubliable de Deborah Harry. Un titre au succès fracassant qui se vendit à plus d'un million d'exemplaires rien qu'aux États-Unis.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé. Isabelle, vous dégainez en premier avec One Mississippi sur Prime.
Oui, alors One Mississippi, c'est deux saisons en 2015 et 2017. Alors c'est l'histoire d'une animatrice radio de Los Angeles qui revient dans sa ville natale du Mississippi pour retrouver son frère et son beau-père, l'homme le plus froid de la Terre, débrancher sa mère sous assistance respiratoire, ranger son héritage dans des cartons et aussi, accessoirement, se reposer afin de se remettre d'un cancer du sein et de graves problèmes intestinaux.
Une comédie donc.
J'ai bien conscience que dit comme ça, effectivement, ça fait pas super envie et pourtant, c'est formidable. Le ton doux amer est souvent plus doux qu'amer. C'est joli, habité, incertain et bouleversant comme la vie et les dialogues sont grandioses. La comédienne de stand-up et comédienne tout court, Tig Notaro, vue dans Transparent et Star Trek Discovery, se cache à peine sous le patronyme de Tig Bavaro. Et c'est quasi sa propre histoire, co-scénarisée avec Diablo Cody, qu'elle raconte. L'histoire d'une lesbienne cadra, d'autant plus vive et drôle derrière un micro que ça cogne méchamment dans sa vie privée. C'est donc un très beau portrait de femme d'aujourd'hui, original et très contrasté.
One Mississippi sur Prime, merci beaucoup chère Isabelle. Marjolaine, vous nous recommandez, alors quand vous m'en avez parlé, je me suis dit bon,
ouais.
Le Voyageur, France oui. 3, Eric Cantona.
Ouais, c'est okay. L'anti-Luther, oui, voilà, ça... parce que je voulais proposer à nos auditeurs du polar classique et moderne à la fois.
Ce sont des unitaires à chaque fois.
Hein. Sans prétention, ce sont des unitaires de 90 minutes. C'est France 3, donc on est dans la France rurale. On est dans du policier avec un héros récurrent, donc Eric Cantona, le charisme à l'état brut. Mais en même temps, comme on a 90 minutes, la série s'accorde de vrais moments de poésie. Elle passe son temps vraiment à explorer le milieu dans lequel elle se trouve. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait tout le sel du polar. Par exemple, dans l'épisode 4, donc qui est encore sur le replay de France Télévisions jusqu'au 15 juillet, il y a un vrai moment de poésie, une balade en forêt avec Denis Lavant. Et vraiment, rien que pour ça. Vous n'en remettrez pas. Et les tracks de tueurs en série sont plutôt efficaces. Premier épisode, en fait, parce qu'il y a là, il y a l'épisode 1 et 4 en replay, bref, qui s'inspire des Fourniret. Et en plus de ça, ça c'est pour Isabelle Danel et pour notre réalisatrice préférée, vous verrez les fesses de Cantona une fois par épisode. Mais dans les prochains épisodes, Eric Cantona sera remplacé par Bruno Debrandt, dont on attend effectivement de découvrir le postérieur.
Merci beaucoup, chère Marjolaine. Le Voyageur, ou une série donc qui s'intéresse au postérieur de ses acteurs principaux sur France 3. Cher Malou Morcel, vous êtes notre stagiaire, mais vous allez vous transformer pendant quelques instants en chroniqueur DVD et nous vous évoquez cette semaine la sortie donc en DVD de la série Perry Mason, dont nous n'avions pas vraiment parlé explicitement. Benoît nous l'avait recommandé, mais nous n'avions pas fait de débat. Donc Perry Mason qui sort en coffret chez Warner.
Et oui, l'enquêteur est de retour en 2020 après une première série s'étalant de 57 à 66 avec l'acteur Raymond Burr. Mais cette fois, c'est Matthew Rhys qui s'empare du chapeau de l'enquêteur et on va suivre avec lui une affaire d'infanticide qui durera toute la saison, contrairement au Perry Mason des années 50-60, dont chaque épisode présentait aux spectateurs une enquête bouclée. Si la narration, elle est prenante, sachant enchaîner avec pertinence les rebondissements, les moments suspendus qui nous laissent reprendre notre souffle, la reconstitution historique des années 30, elle aussi vraiment entre deux eaux. Tout ce qui est de l'ordre du concret, c'est-à-dire les costumes, certains décors fonctionnent, on se croirait presque dans le Los Angeles de cette époque. Mais dès qu'on plonge dans ce qui relève du numérique, et c'est patent dans certains quartiers reconstitués numériquement, le charme n'opère plus autant. La série reste tout de même haletante, réellement prenante, et elle permet de découvrir aussi les origines de ce détective. Et c'est ça qui est intéressant. D'où vient cet homme? Qui est-il? Comment est-il devenu cet immense avocat et enquêteur expérimenté? Autant de réponses contenues dans les 8 épisodes.
On parle de coffret DVD, qu'en est-il des bonus?
Eh bien alors, ce qui concerne les bonus, le rythme du montage est vraiment rapide, contrairement à la série qui, elle, savait tenir un rythme assez lent et aussi compréhensible. Il nous dévoile avec une rapidité vraiment trop poussée les branches du métier. On a le droit entre une conversation en tête-à-tête avec Mathieu Rhys et le producteur Robert Downey Jr., conversation que ce dernier qualifie d'approfondie, à croire que le mot approfondi est variable en fonction des personnes. On sauvera juste la conversation entre Robert Downey Jr. et son épouse, également productrice, évoquant leurs ambitions pour la série.
Merci beaucoup, coffret DVD Perry Mason sorti chez Warner. C'est la fin d'une heure en série. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Merci à vous, Marjolaine, Isabelle, Benoît et Malo, d'y avoir participé. Nous vous avons recommandé ou pas à Aïd Souzi sur Brut X, Luther sur TF1 et enfin Alston sur Netflix. La semaine prochaine, nous évoquerons Histoire de Lee sur Apple TV et Salisbury Poisoning sur Arte, qui est rebaptisé l'affaire Kiptral, je ne sais jamais, c'est ça, l'espion empoisonné, je demandais à mes petits camarades. Rendez-vous demain soir à 20h avec Le Masque et la Plume, Jérôme Garcin, consacré à la littérature, une heure en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer vos courriers, consulter le programme de l'émission. Il y a un compte Instagram, une heure en série officielle, une heure en série, une émission réalisée comme chaque semaine et comme personne par Marie-Annick Rimbaud, programmation musicale assurée par Muriel Perret. J'ai préparé cette émission avec Amel Caldi et ce soir à la technique, Florent Bujon.